Voix Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Sommet de la coalition anti-Boko Haram aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Bénin veulent intensifier la lutte contre les islamistes nigériens qui ont fait allégeance au groupe terroriste État islamique. Par ailleurs, les autorités nigériennes ont appréhendé 14 ressortissants étrangers, britanniques, russes, ukrainiens et japonais, accusés d'implication dans un commerce illégal de produits pétroliers. Le point avec Chérubin Dorsil.
Les 14 ont comparu devant la haute cour de Lagos hier mercredi. Ils auraient stocké sans autorisation quelques 4500 tonnes de produits pétroliers dans trois navires au mois de février dernier. Ils ont clamé leur innocence et demandé par le biais de leurs avocats à être remis en liberté sous caution, ce que le juge a refusé. D'ailleurs, leurs passeports ont été confisqués en attendant la prochaine audience dans 7 jours. On a longtemps dénoncé le phénomène de la fraude dans le marché pétrolier nigérian, le pays étant obligé d'importer de l'or noir raffiné alors qu'il est le premier producteur du continent. Ces pratiques illicites coûtent à l'État nigérian la bagatelle de 6 milliards de dollars l'an. Le nouveau président Muhammadu Buhari s'est engagé à combattre la corruption, notamment dans la vente du pétrole produit au Nigeria.
Au Rwanda, la campagne pour un troisième mandat pour le président Paul Kagame ne fait pas l'unanimité. Les partisans du FPR au pouvoir disent déjà avoir obtenu 4 millions de signatures en faveur de cette initiative, mais Maître Bernard Ntaganda, président du Parti social Imbérakuri, est contre le projet. Ses explications au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Le FPR essaie de faire la diversion pour tromper surtout la vigilance de l'opinion internationale. C'est une sorte de tragique comédie.
Mais quand on parle aux gens dans la rue, beaucoup semblent dire qu'il faut modifier la constitution, hein, parce qu'ils disent qu'ils aiment Kagame, qu'il a fait beaucoup de réalisations.
Ces gens-là ne sont pas libres d'esprit de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils comptent faire. Toute personne qui dit quelque chose contraire à ce que FPR pense, il est considéré comme l'ennemi du régime. Pour le moment, nous avons des grandes figures emblématiques de l'opposition qui se contrent à l'étranger. Pourquoi autant de personnes qui ont quitté le pays? Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté leur indépendance d'esprit.
On parle de plusieurs millions de pétitions qui sont déposées devant le Parlement.
Ces fameuses pétitions, sur le plan juridique, légal, n'a aucun effet. C'est pour faire diversion, pour rouler l'opinion internationale dans la farine.
Maître Bernard Ntaganda, président du Parti social Imbérakuri au Rwanda. Crise au Burundi, le gouvernement affirme que la contestation est terminée dans le pays et accuse les journalistes d'organiser les dernières protestations encore évidentes. Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU, Saïd Djinnit, renonce à son rôle de médiateur du dialogue gouvernement-opposition. Les deux partis campent sur leur position et des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, notamment au Rwanda, pour échapper aux violences dans leur pays. Notre envoyé spécial Bagassi Koura est allé ce matin au camp de réfugiés burundais de Mahama, dans l'est du Rwanda. Son témoignage.
C'est un vaste camp qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. On parle de 24 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, des gens qui ont tous fui le Burundi depuis fin avril, depuis ces violences qui ont fait suite à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Les humanitaires expliquent ici que les premières vagues étaient composées surtout des femmes et d'enfants. Puis après, certainement voyant que la crise s'enlisait, les hommes et pères de famille surtout ont suivi. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème majeur dans ce camp, comme par exemple cette épidémie de choléra qui a éclaté dans un autre camp de réfugiés burundais en Tanzanie.
Les autorités burundaises et le président Pierre Nkurunziza lui-même avaient lancé un appel aux réfugiés pour leur demander de rentrer au pays. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer, écoutez cet appel.
Non, tous ceux avec qui nous avons échangé dans ce camp, personne ne veut rentrer. Ils racontent les violences, les circonstances assez effrayantes dans lesquelles ils ont dû fuir leur pays. Et pour l'instant, personne ne veut retourner au Burundi.
Bagassi Koura au camp de réfugiés burundais de Mahama au Rwanda. Conflit du Darfour au Soudan, l'ONU estime que la seconde phase de l'offensive gouvernementale contre les rebelles du Darfour a entraîné le déplacement de près de 80 000 personnes cette année. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef adjoint des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Edmund Mallett, a expliqué hier au Conseil de sécurité que des informations font également état de la présence d'environ 130 000 autres déplacés dans la zone de Jebel Mara, où se déroulent les plus violents combats. Des efforts sont en cours pour vérifier ces informations, mais le centre du Darfour est en grande partie inaccessible aux groupes humanitaires et aux casques bleus.
À noter que Khartoum réclame le retrait de la MINUA, de la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour, et dément le sombre tableau sécuritaire peint par l'ONU.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise en Libye, l'ONU et les puissances mondiales exhortent les factions rivales libyennes à accepter un accord de partage du pouvoir pour mettre fin à près de 4 ans de violence dans leur pays. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion hier à Berlin souligne qu'un règlement inclusif du conflit est la seule solution durable au problème de la Libye. Les diplomates onusiens et les représentants de divers pays ont exhorté tous les Libyens à s'atteler à lever les derniers obstacles dans la voie d'un accord. Plus de 20 délégués libyens étaient à Berlin pour des pourparlers, incluant les représentants de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, de même que ceux de l'Union européenne, de l'Italie, de l'Espagne et des pays voisins de la Libye. L'émissaire onusien pour la Libye, Bernardino Leone, a tenté jusqu'ici sans succès d'amener les parties libyennes au consensus.
En Libye même, les autorités estiment qu'il y a plus d'un million de sans-papiers dans leur pays, d'où leur détermination de sévir contre les clandestins. Timothée Donangmaï.
Les officiels libyens, dont le pays se débat dans ses propres problèmes de guerre civile, reconnaissent qu'ils sont débordés. Un correspondant de la VOA a constaté de visu la situation cette semaine dans des camps de détention bondés et bruyants de Tripoli, la capitale. Collins, un Ghanéen de 30 ans, qui avait du mal à sécher ses larmes.
They gave us food. I want to go back to Ghana. I love my country.
Ils nous donnent à manger, mais je veux retourner au Ghana. J'aime mon pays. J'étais seulement parti pour me faire un peu d'argent pour pouvoir monter une affaire à mon retour. J'étais dans le bâtiment. Je louais des produits d'échafaudage, outils et autres équipements. Donc, j'étais venu ici pour avoir plus d'argent en vue d'une expansion de mon entreprise, a répété Collins. Sous les rayons ardents du soleil libyen, dans la cour du centre, Collins était en compagnie de 300 autres migrants arrêtés par la police ou les milices libyennes en tentant de se rendre en Europe ou en travaillant illégalement dans le pays. Les gardiens de ce camp de détention sur la route de l'aéroport de Tripoli sont essentiellement des miliciens n'ayant aucune expérience. Et ça se voit. Et leur travail n'est pas facilité par les risques de réactions violentes dans un camp bondé de gens désespérés et où les conditions d'hygiène laissent à désirer. Selon le directeur du centre, Meloud Djuma Salem, les migrants viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Djuma Salem appelle la communauté internationale à aider à mettre en place des installations adéquates pour faire face aux migrants et assurer leur sécurité.
La lutte contre le groupe État islamique, le président Barack Obama a ordonné l'envoi de 450 formateurs militaires américains supplémentaires en Irak pour renforcer les troupes irakiennes se battant contre les djihadistes, ce qui portera à 3550 les effectifs des formateurs et conseillers militaires américains présents dans le pays. Le déploiement des renforts aura lieu dans la province irakienne d'Anbar et ce déploiement devrait commencer dans 6 à 8 semaines selon le Pentagone. En visite aux États-Unis, la ministre française de l'économie, Ségolène Royal, a fait la promotion du prochain sommet sur le climat en décembre à Paris. Enjeu notamment le financement du fonds vert destiné à aider les pays en développement touchés par les changements climatiques, particulièrement en Afrique. On écoute Ségolène Royal au micro de Claire Morin-Gibourg.
Ce qu'il faut, c'est permettre à l'Afrique d'accéder aux technologies du renouvelable, le solaire, l'énergie thermique des mers, l'éolien, etc., la géothermie également, parce que l'Afrique a tout pour réussir. Et donc ce transfert de technologies, c'est la clé du développement économique en Afrique.
Où en est-on du financement du fonds vert ?
Alors le fonds vert a ses 10 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est des engagements concrets. Par exemple, les pays du G7 ont décidé qu'il y aurait une utilisation du fonds vert prioritaire pour les énergies renouvelables en Afrique. Donc ça, c'est déjà une initiative concrète.
La ministre française de l'économie, Ségolène Royal. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.